Bonjour à toutes et à tous, bonne année et bienvenue dans la parentèle enchantée. Je suis Cynthia et je vous retrouve tous les premiers mercredis du mois à 11h pour une émission qui vous parle de parentalité sans vous donner l'impression d'être de mauvais parents. Avec moi en studio, Rémi, le papa.
Salut à tous, enchanté. Nous vous souhaitons à tous une très bonne année. On vous souhaite de pouvoir repeupler le monde et surtout d'avoir mille envies de le faire. C'est nous les parents de Lou qui vient de fêter son troisième Noël et qui ne sait plus comment ranger sa chambre d'ailleurs. Ce mois-ci, nous allons échanger autour de la rue et de la ville. Car il faut bien le dire, nos petits monstres sont parfois comme Mimi Sécu, des Indiens dans la ville.
On rappelle qu'il est évident qu'il y a mille façons d'être parent. N'oubliez jamais, on est le meilleur parent possible pour son enfant et souvent les plus indignes pour les autres.
Comme à notre habitude, nous vous proposerons quelques idées de sortie pour parents et enfants et nous écouterons ce que notre fille aurait à nous dire si elle parlait déjà comme une grande. Et avant de découvrir non pas la ville mais au contraire la forêt, dans Une histoire et au dodo avec Elodie, place aux brèves. CMG, complément mode de garde. Ce complément était initialement versé jusqu'aux 3 ans de l'enfant pour le salaire de l'assistante maternelle, pour la crèche.
Et après, plus rien.
Bonne nouvelle, pour une fois, mais qui vient en fait réparer une anomalie.
Et oui, désormais, ce complément sera versé jusqu'à l'entrée en maternelle de son enfant. Fini l'angoisse de la disparition de l'allocation si bébé était né entre janvier et août.
C'est une info scotchante. Des parents ont tenté de vendre 120 000 euros leur enfant scotché sur un mur.
Attends Rémi, c'était pas un canular ?
Sérieux, un canular, c'est ça. Bah, autant pour moi, je vais retourner à ma banane et je garde la peau. Hein.
T'as raison, on pourra la revendre et acheter une combinaison de ski en or pour ta fille.
Elle arrive, elle fait mal aux bronches, elle fait tousser, elle véhicule toutes les idées reçues, il s'agit de...
La belle-mère !
Non, je parle évidemment de la bronchiolite qui touche environ 30% des enfants de moins de 2 ans.
On rappellera que c'est principalement une infection virale, favorisée davantage par l'humidité que par le grand froid.
S'abstenir de faire la promenade quotidienne, même s'il fait 2 degrés, n'épargnera pas forcément le dernier. Rien de tel qu'un bon lavage de nez quand il coule un peu plus que d'habitude.
Un livre et...
Oui, tata.
Dans les livres pour la jeunesse, il est souvent question de la ville. Forcément, elle fait partie de l'univers des enfants. Mais moi, je préfère faire un détour par la forêt. Quand on y pense, en forêt, il se passe beaucoup d'histoires. D'ailleurs, le petit chaperon rouge ou le petit pousset ne me contrediraient pas. Mon album coup de cœur du jour, c'est « Dans la forêt » d'Antoine Guillopé. Antoine Guillopé est un auteur-illustrateur qui utilise la technique du papier découpé pour certains de ses albums et c'est sublime. Pleine lune, ce sont les ombres des animaux de la forêt qui s'éveillent à la nuit tombée. Le loup, le renard et le hibou se croisent, tandis que dans cette belle nuit de pleine lune, un bébé ours voit le jour. C'est un album magnifique, empreint de poésie et surtout une véritable œuvre d'art. Il fait partie de ces albums que l'on achète pour toujours. Il suivra votre enfant toute sa vie. D'ailleurs, je l'achèterai même pour offrir à des adultes. A noter qu'Antoine Guillopé, toujours dans la technique du papier découpé, a publié également Plein soleil et Pleine neige. Pas d'âge pour découvrir son univers. Et ces albums sont disponibles dans les médiathèques de Bourg-en-Bresse, alors n'attendez plus pour les découvrir.
Un livre et...
Oui, tata.
Si vous nous suivez depuis un moment, vous aurez compris qu'utiliser la voiture n'est pas notre loisir favori. Moins on la prend, mieux on se porte. Alors oui, bien sûr, c'est utile une voiture et ce serait mentir que de vous dire qu'on ne l'utilise jamais. Mais au quotidien, pour aller au boulot, boire un coup en ville ou simplement se promener, nous faisons tout à pied ou à vélo. Après, nous avons le luxe d'habiter en ville, luxe que nous avons choisi lorsque nous avons envisagé d'acheter notre appartement à Bourg plutôt qu'une maison hors agglomération pour le même budget. Alors cet achat, on l'a fait quand avoir un enfant n'était même pas encore dans nos esprits. Mais justement, qu'en est-il maintenant qu'on sillonne cette même ville avec notre mini-nous de 2 ans? Vaut-il mieux élever des rats des champs ou des rats des villes? Alors, c'est propre à chacun et les deux modèles ont leur intérêt. Et puis surtout, cela dépendra aussi de la ville dont nous parlons. On est bien d'accord que Bourg-en-Bresse, ce n'est pas LA ville de grande ampleur au même titre que Lyon ou Paname. Premier constat, vivre en ville, c'est pratique. Bah oui, concrètement, on fait tout à pied et avec un petit dans les pattes, c'est quand même super pratique pour le déposer chez Nounou, aller au square ou faire 2-3 courses. Mais c'est aussi en arpentant cette même ville que son enfant qu'on se rend compte, parfois, de son manque de praticité, alors qu'on n'y avait pas forcément prêté attention auparavant. Bon, la première année, Lou était en écharpe en permanence, donc se promener avec elle revenait à être un simple piéton. Mais après, c'est devenu l'ère du tricycle, pousse-pousse, quand madame a eu envie de voir le monde face à elle. Et là, on se retrouve souvent bloqué par des trottoirs trop hauts, amis en fauteuil, bon courage, sur des zones où on ne se sent pas toujours en sécurité, et où l'enfant respire le bon air des pots d'échappement. Ou alors coincé par des voitures mal garées qui vous forcent à rouler un moment sur la route pour les contourner.
Et ouais, c'est ça aussi la ville.
Et puis vient l'heure de la marche et de l'autonomie pour l'enfant. Et là, ce sont encore d'autres difficultés qui se dressent devant lui. Peu d'espace où marcher seul, au vu de la proximité des voitures. Des poubelles toujours trop hautes pour apprendre à aller jeter son papier seul. Des parents qui prônent l'autonomie, mais qui lui demandent sans cesse de leur donner la main. Et des squares où l'on s'entasse pour jouer au bon endroit. Tout n'est pas noir, évidemment, et notre choix d'habiter en ville n'est absolument pas remis en question. Mais quand même, on pourrait se demander, est-ce que l'espace public ne pourrait pas être mieux pensé pour se mettre à hauteur d'enfant ? Il suffit de regarder autour de vous en ville. Des enfants, il en grouille de partout. Et pourtant, souvent, peu d'espaces leur sont dédiés. Alors oui, il y a des squares, et à Bourg, il y en a même de très chouettes où nous allons très souvent.
Oui, oui, si vous nous écoutez en podcast, c'était l'une de nos émissions de l'automne 2018, où on faisait le tour des squares de Bourg.
Mais tout comme on le ferait avec un parc pour bébés à la maison, est-ce que les squares ne sont pas aussi un cantonnement de l'enfance dans une partie de la ville, qui semble donner droit aux adultes de ne pas laisser de place à cette même enfance ailleurs ? Finalement, imaginez des bancs à hauteur d'enfant, des poubelles adaptées à leur taille, voire même des espaces colorés et ludiques au sein même de la ville, et sans barrière, ce serait si compliqué que ça à imaginer ?
Si la ville c'était moins gris, ça serait beaucoup plus chouette. Et puis si c'était permis d'être en patin à roulette, s'il y avait pas tant d'auto, des couloirs pour les vélos, ça sentirait moins mauvais, et peut-être on s'y plairait. On peut pas faire 3 pas, pour les enfants y a pas de place. On peut pas faire 3 pas, faut toujours que les autos passent. On peut pas jouer au ballon, les gens sont beaucoup trop grognons. On dirait bien qu'ils font semblant d'avoir jamais été des enfants, d'avoir jamais été des enfants. Si les rues ne sentaient plus les échappements de voitures, si le béton ça sentait bon comme ça sent dans la nature, si on mettait des fleurs partout au lieu de creuser des trous, ça serait beaucoup plus gai, et peut-être on s'y plairait. On peut pas faire 3 pas, pour les enfants y a pas de place. On peut pas faire 3 pas, faut toujours que les autos passent. On peut pas lancer des pétards, ça pourrait faire peur aux motards. On dirait qu'ils ne savent pas qu'ils font beaucoup plus de bruit que ça, qu'ils font beaucoup plus de bruit que ça. Donnez-nous la ville pour nous, on saura bien quoi en faire. Même les grands seront contents de pouvoir marcher dans l'herbe. On inventera des jardins, des piscines et des terrains pour jouer à tous les jeux et pour faire tout ce qu'on veut. On pourra faire 3 pas, pour les enfants il y aura de la place. On pourra faire 3 pas, plus question que les autos passent. On fera des tapis roulants qui nous emmèneront gentiment le long des rues bordées de fleurs. Ça pourrait s'appeler le bonheur, ça pourrait s'appeler le bonheur. On pourra faire 3 pas, pour les enfants il y aura de la place. On pourra faire 3 pas, plus question que les autres.
Dans l'imaginaire collectif, le monde de l'enfance innocente, c'est celle de la rue. Pas le noir et blanc d'un Truffaut, non, quoique. Mais celle d'un Titeuf, par exemple, d'un Cédric, de Tom Tom et Nana. Et pourtant, la rue d'aujourd'hui n'est pas celle des années 60 ou 70, Cynthia, dirions-nous. Hors de question de laisser ses enfants jouer dehors sur les boulevards ou les terrains vagues. D'ailleurs, les terrains vagues, ça n'existe plus, c'est entouré de barbelés, de palissades de chantier. Quant à laisser son enfant de 6 ans jouer dehors, très vite, quelques signalements à la protection de l'enfant seraient peut-être faits. T'imagines, Cynthia ? On laisse Lou sortir dehors sur le boulevard Victor Hugo pour aller ensuite seul vers la rue du Stand, puis place de la Commune vers Radio B, dans 4 ans seulement.
J'aimerais me dire que oui, mais c'est difficilement réalisable quand on sait qu'un ado s'est fait renverser là alors qu'il avait appris depuis longtemps l'intérêt du petit bonhomme vert.
Ouais, mais à cet endroit-là, il n'y en a même pas des petits bonhommes verts. Et Dolto, la grande pédopsychiatre, elle a raconté que son fils prenait seul le métro à 6 ans dans Paris. Oui, oui, 6 ans. Bon, ok. Son fils... c'est devenu Carlos, big bisou, mais quand même. Alors, comment on en est arrivé là? Quand on voit combien la ville est hostile pour un enfant, n'est-ce pas aussi notre vision de parents, qui est peut-être différente de celle de nos grands-parents? J'aime bien la notion de parapluie, tu sais, qui ramène des constructeurs et décideurs à parer à toute situation qui pourrait être pseudo-dangereuse. Pour éviter qu'il arrive un supposé accident, on ouvre le parapluie pour éviter qu'une petite goutte nous mouille parce que la météo de la veille a prévu une petite ondée. Alors oui, bien sûr, dans la rue on essaye de tenir Lou par la main, on lui déconseille de ramasser ce qui traîne, mais en vrai... est-ce les dangers fantasmés qui sont les plus hostiles aux enfants? Oui, un enfant peut tomber sur un caillou dans un terrain vague et s'ouvrir le genou. Mais est-ce vraiment pour cela qu'un terrain abandonné est dangereux? Ne projette-t-on pas aussi des angoisses d'adultes peu justifiées sur les enfants? Je me demande aussi si nous n'avons pas idéalisé la place de la voiture en ville qui fait qu'on considère facilement que le piéton est l'intrus. Et quand ce piéton a 2 ans et que c'est notre fille, on jongle un peu avec l'irrationnel. Hein. D'autant qu'un enfant... ça comprend quand même relativement vite. A-t-on déjà vu un enfant se jeter sur une voiture, par exemple? En fait, ce qui est plus fréquent, comme tu l'as dit, c'est plutôt d'avoir une bagnole qui empêche Lou de passer ou qui lui impose de marcher sur la route pour l'éviter. Hein. Bah, une ville sécurisée, c'est une ville qui serait récréative, en fait, qui ouvre des possibles aux enfants plutôt que des contraintes. Il faudrait en fait que la somme des possibles soit supérieure à celle des contraintes. Quand je me promène avec Lou, j'ai plutôt l'impression que ce qui l'a fait se déplacer dans un monde qui n'est pas conçu pour elle, c'est le bruit assourdissant de certains véhicules, comme ces motos qui déchirent les tympans. Mais bon, ça c'est presque anecdotique. Les écrans qui envahissent les vitrines de nos rues, c'est encore plus terrible. Comme si cela donnait à voir que seul un écran est capable de donner une info essentielle. La promenade en ville, en fait, c'est l'explosion de seulement 2 sens. L'ouïe et la vue. Tous les autres sont oubliés, alors qu'ils sont pourtant essentiels pour le développement de notre mini-nous. Que devient l'odorat en ville? À part les flagrances douteuses d'un magasin de parfum, pourquoi ne sent-on pas les cafés, le sucre des sirops, les fleurs des jardinières? Pourquoi on peut rien manger en ville? Est-ce impossible de trouver des framboisiers contre un mur ensoleillé et des cerises au printemps? Pourquoi a-t-on des arbres meubles en ville? Et le toucher alors? Lou qui adore toucher à tout, elle est rarement attirée pour caresser, gratter, sentir les choses. Au point tel que maintenant elle se promène les mains dans les poches. Vous vous rappelez du film « Un indien dans la ville » ? Si dans cette fiction, Mimicicu se retrouve perdu dans la ville moderne, c'est aussi le cas de nos enfants, parfois.
Ouais, souvent même. Si d'autres pays nous devancent largement sur la question, l'adaptabilité des villes aux enfants n'est pas toujours gagnée en France.
En cette veille d'élection municipale, nous recevons Cédric Chardon, paysagiste et concepteur d'espaces publics. Bonjour.
Bonjour.
Vous concevez des lieux que nos auditeurs fréquentent peut-être régulièrement, notamment des parcs, des squares et des cours d'école. Comment pensez-vous ce type de lieu?
Alors on le pense par rapport à l'enfant, par rapport à l'aspect ludique, évidemment aussi par rapport à la sécurité, par rapport à beaucoup de contraintes et aussi en tant qu'ancien enfant, on essaie de se projeter un peu, se mettre à la place... les petits, de réfléchir à ce qui les intéresse, ce qui peut attirer leur attention. Et puis il y a des aspects pédagogiques aussi, de petits jardins, de présence d'oiseaux, de nichoirs, de mangeoires, voilà. Plein de choses pour attirer leur attention et les éveiller en fait.
Et du coup on cherche d'abord à faire un lieu ludique ou un lieu sécuritaire?
On est dans une commande publique avec des contraintes, donc je dirais que la première chose c'est la sécurité, c'est le fait de clore correctement, de faire en sorte que... Enfin, on est de toute façon dans des espaces qui sont normalisés aujourd'hui, que ce soit une cour d'école ou la rue, on a des normes à respecter. Je dirais qu'après, à partir de là, on peut choisir du matériel, on peut choisir des matériaux, des plantes. C'est un point de départ incontournable, mais après, on peut travailler la créativité à partir de là, et c'est tout ce qui fait le projet, hein, ça c'est sûr.
D'accord. Et le fait que ce soit à destination d'enfants, ça entraîne donc des défis différents par rapport à un public adulte, j'imagine ?
Alors pour la cour d'école, oui, c'est vraiment un espace qui est dédié. Pour après l'espace public, je dirais que l'enfant il apparaît pas toujours dans les réflexions, c'est en filigrane en fait. Une attention qu'on peut y porter sur l'échelle par exemple des mobiliers, sur des peut-être des points de détail. En fait, les enfants sont souvent sensibles aux matériaux, au sol, ils sont plus petits, peut-être qu'ils regardent plus le sol. On peut imaginer des détails, des nivellements aussi, c'est-à-dire les modelés de terre peuvent être intéressants parce que par rapport à leur taille à eux, une butte de terre, c'est tout de suite une petite montagne à gravir. Voilà, je dirais que c'est aussi se souvenir de ce qui était important pour nous, ce qui nous a marqué, et pas oublier ça parce qu'en fait, ça peut être déterminant. On a tous un souvenir quelque part d'un jardin pour enfants ou d'une rue, de quelque chose qui nous a plu à un moment ou à un autre dans notre jeunesse. Et voilà, je pense que c'est ce qui fait la qualité aussi de la ville, du cadre de vie.
Et du coup, par rapport à cette place de l'enfant dans la ville dont vous venez de nous parler, est-ce qu'on ne peut pas justement penser autrement pour favoriser l'éveil, l'envie de marcher pour les enfants, puis pour les parents aussi, j'imagine. Est-ce que vous avez, vous, des solutions en tête ?
Alors, des solutions, je dirais que c'est comme on disait, d'abord un échange avec les usagers, avec les parents, avec les usagers, pour les cours d'école, dans l'encadrement. Et puis aussi, enfin globalement, je pense, c'est réfléchir à l'évolution des espaces publics, c'est-à-dire que, en gros, je pense que depuis une trentaine d'années, la voiture a pris beaucoup de place dans l'espace et a créé une contrainte importante. Moi, j'ai souvenir d'avoir joué dans la rue étant enfant. Aujourd'hui, on a beaucoup moins d'autonomie en tant qu'enfant. Donc, quelle place on veut donner à la voiture, aux piétons, dans un cadre très normatif, comme je venais de le dire. Je pense qu'il faut la créativité, en fait. Moi, pour moi, c'est la solution. C'est-à-dire faire du sur-mesure, peut-être sortir un peu des catalogues de jeux pour enfants, par exemple, et inventer peut-être du mobilier qui soit à la fois intéressant pour les parents et les enfants, pour pas forcément séparer les publics. Voilà, je parlais de modeler de terrain. Dans les années 70, par exemple, on avait des expériences comme ça d'aménagement dans les grands ensembles qui étaient très extensifs, avec des terrassements très généreux, avec des toboggans intégrés à la pente, des choses qui était à la fois simple, mais je dirais à la fois pour les enfants et les adultes, quoi. C'était très libre et très, on va dire, très inspiré. C'est vrai qu'aujourd'hui, on cadre plus les choses, on est un peu chacun dans notre couloir, les vélos, les enfants dans les squares pour enfants. Voilà, moi, je pense que c'est plus de la conception, de faire appel à de la créativité à toutes les étapes pour que tout puisse être étonnant à un moment ou à un autre, en fait.
D'accord, faire en sorte qu'en fait les squares soient moins des cages sécuritaires où on place finalement les enfants dans la jungle urbaine, comme c'est le cas actuellement.
Ouais, alors la sécurité, moi en tant que parent, je suis quand même sensible. Le sentiment de sécurité, il faut réussir quand même à l'obtenir. Ouais. Par exemple, la clôture, je pense qu'elle est intéressante. Mais en soi, elle peut être un bel objet, elle peut être travaillée pour être fleurie, elle peut raconter des choses. Voilà, c'est là où je pense qu'il faut dépasser la norme et la question de la sécurité pour que ce soit un support à, voilà, comme je disais, un peu à émerveillement. Moi, j'ai souvenir d'avoir traversé un square étant enfant, qui a été refait du jour au lendemain par un paysagiste de renom. Moi, j'habitais pas du tout en centre-ville et ça m'a marqué en tant qu'enfant parce que j'ai senti qu'il y avait eu une réflexion et une attention portée à mon quotidien d'écolier, quoi, qui traversait cette place. Et ça m'a marqué, en fait. Ça fait partie des choses qui m'ont marqué étant enfant, qui m'ont peut-être un peu orienté vers mon métier. Donc, je pense que, ouais, on peut faire des choses sur mesure qui peuvent me... peuvent intéresser tous les publics. Quoi. Vraiment, les enfants, je pense qu'ils regardent beaucoup les détails. Quoi.
Alors... Vous parlez du fait de traverser un square. Alors, on a parlé un petit peu de ces lieux statiques qu'étaient les squares. Mais finalement, si on prend les 0-3 ans, ils fréquentent aussi la rue. Ils se déplacent aussi d'un point A à un point B, en poussette, en trottinette ou à pied, même dès qu'ils commencent à marcher. Est-ce que vous pensez qu'un espace public qui serait vraiment inclusif, qui serait adapté à ces tout-petits, c'est possible ?
Oui, bah on va dans ce sens-là. Hein. C'est sûr que de ce point de vue-là, les normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ont quand même beaucoup transformé la ville. Enfin, sont en train de le faire. Je crois que et là, l'enfant, il prend toute sa part. Hein, ça, c'est sûr. Vous parliez de la poussette. Voilà. Aujourd'hui, on pense systématiquement fauteuil roulant, mais toutes ces normes, elles visent aussi à faciliter la vie des parents avec des poussettes, des enfants effectivement qui sont en bas âge et qui apprennent à marcher. Enlever tous les obstacles, gérer les pentes, c'est des choses qui sont devenues le quotidien de l'aménagement urbain. Mais moi, mon souci, c'est vrai, c'est de ne pas tout banaliser. Moi, je pense que par rapport à l'enfant, il faut offrir de la diversité. Il a un peu les mêmes besoins que l'adulte, finalement. Peut-être de l'ombrage, de la végétation qui change au fil des saisons. Mais il a peut-être un regard plus sur les choses et pas louper cette étape-là. Enfin, je trouve ça intéressant qu'un enfant il puisse se rendre compte que dans sa rue, il y a des arbres particuliers. C'est-à-dire qu'il a grandi sous un bel alignement de prunus. Pour moi, ça peut être marquant dans une jeunesse. Quoi. Même si on ne saurait pas mettre le mot dessus, on s'en souvient. On se souvient d'un fleurissement au mois de mai, des choses comme ça. Et, ouais, je crois que c'est important. Ouais.
Et quelles sont, d'après vous, les contraintes justement aujourd'hui qui entrent en jeu pour réaliser un espace adapté intégralement à tous les publics ?
C'est des contraintes qui s'appliquent aux collectivités, hein, de responsabilité en fait en cas d'accident. Donc tout simplement. Hein, donc aujourd'hui, il faut faire en sorte que l'espace public ne crée pas de dangerosité, que la collectivité ne soit pas responsable d'une dangerosité particulière. Donc forcément, on doit choisir en catalogue, on a des normes de taille, de couleur, beaucoup de choses. Et c'est vrai, moi je pense notamment aux jeux pour enfants. La France est particulièrement stricte sur les normes, que ce soit des jeux ou des sols qui sont tout autour. Je pense que c'est une bonne chose, ça a permis probablement d'éviter plein d'accidents par rapport aux années 70 où il n'y avait aucune norme et c'était à l'appréciation des gens qui posaient les jeux. Aujourd'hui, on a quand même un peu structuré tout ça, je pense que c'est bien, mais peut-être qu'on va un peu trop loin. Je pense qu'en Allemagne, par exemple, on a une pratique un peu différente. Des jeux en bois brut sont beaucoup plus faciles à trouver, il y a des normes qui sont... on va dire plus libéral et peut-être laisse plus de liberté à des jeux plus ludiques, plus marrants avec l'eau par exemple.
Et justement, si on se place du côté de l'utopie, qu'on oublie un peu ces normes, une rue rêvée adaptée aux enfants en 2020, ça ressemblerait à quoi pour vous ? On s'autorise vraiment à rêver là ?
Ouais, on peut rêver, ouais, c'est sûr. Moi, je pense qu'elles existent parfois. Il y a des éco-quartiers, par exemple, où on a réussi à virer les voitures, en fait, hein, tout simplement. Et je crois que là, d'un seul coup, on se retrouve avec une rue qui est une rue plus calme, hein, c'est certain, où on peut végétaliser davantage. On a des pas de porte, on a de la végétation, des pots de fleurs, toutes sortes de choses qui font le quotidien des enfants, en fait. Qui leur permettent de jouer au ballon dehors, de rencontrer leurs voisins. Je pense que, encore une fois, la voiture, elle est très nécessaire et les enfants l'utilisent aussi. Il ne faut pas être naïf là-dessus, mais il faut trouver la bonne place pour chaque usage dans l'espace public. Et l'enfant, il est sur un espace résiduel, malheureusement. Et...
Merci beaucoup, Cédric Chardon.
Nous espérons, nous, que l'utopie d'une ville pour tous soit réalité demain. Puissent nos décideurs s'en inspirer.
Bourrasquero et la Morronnais. On était pas beaux, mais on s'en foutait. Le mercurochrome sur nos genoux pointus, c'était nos diplômes de l'école de la rue. Le seul vrai enfer qu'on avait sur terre, il était dans le ciel de nos pauvres marelles. On avait 10 ans, puis on ignorait qu'un jour on serait grand, puis qu'on mourirait. L'eau des caniveaux nous faisait les rivières, où tous nos bateaux naviguaient pépère. Aujourd'hui les moineaux évitaient de tomber, le nez dans le ruisseau, la gueule sur le pavé. À moins de pas trop craindre les capotes usées, les vieilles seringues et les rats crevés. L'été sur les plages, c'était le débarquement. J'étais les GI, c'était les Allemands. Pistolet à flèche, carabine en bois. Et ma canne à pêche, c'était un bazooka. Dans les vieux blocos, on faisait notre QG. C'était bien craignos, qu'est-ce que ça chlinguait. Les filles venaient jamais parce qu'elles craignaient qu'on veuille les tripoter. Elles avaient raison. Quand tu ramassais un gros coquillage, eh ben t'entendais la mer, le vent du large. Aujourd'hui t'as qu'une symphonie de 4x4 qui vont dans les dunes comme un Warzazat. Le son des tocards échappé hélas du Paris-Dakar, du rallye de la classe.
Le sirop de la rue, Renaud, parce que bon, le sirop de la rue, c'est toujours mieux que l'anis du bar.
On ne peut rien faire quand on est petit.
Et si on sortait, les nuits vont enfin commencer à raccourcir. C'est pas trop tôt, hein. La dynamo sur le vélo avec Lou qui a pris 1 kg avec les sablés de Noël, ça épuise mes guiboles, hein. Bon, ceci dit, il reste encore quelques jours pour admirer les illuminations de Noël. Un petit faible forcément pour les animations de l'hôtel de ville à Bourg. Notre fille est plutôt fan et se débrouille bien. Allez, on vous donne rendez-vous après une journée de boulot pour souffler un peu. En effet, cette année, c'est une aire de jeu drôlement chouette pour petits et grands, que l'on peut enjamber, on peut marcher sur une poutre, on peut sauter et tout ça sous l'œil amusé d'Olaf, le bonhomme de neige du film dont on terre le nom. Les plus grands en profiteront pour admirer aussi le décor sculpté et mis en place par le service Espace Vert de Bourg-en-Bresse. Et si vous avez de la chance, vous verrez peut-être un gros monsieur rouge en train de dormir. Psst, c'est un automate. Et un peu de théâtre, ça vous dit? Ça se passe du côté de Césaria. Et c'est pour les plus de 5 ans, avec Lila et Rien. Rien? Avec Rien, on peut tout faire. C'est du théâtre d'ombre par la compagnie italienne Giocovita. Renseignements au théâtre de Bourg-en-Bresse.
Et si bébé pouvait parler, elle vous dirait sûrement. Moi, j'adore marcher. J'ai mis le temps pour faire mon premier pas, mais maintenant, on ne m'arrête plus. Tiens d'ailleurs, on pourrait dire la même chose sur mon débit de parole, mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai une autre fois peut-être. Donc, j'aime marcher et découvrir la ville avec papa et maman, en flânant tranquillement dans la rue. Souvent, ça fait râler les parents, car j'aime aussi traîner, prendre mon temps, admirer un petit oiseau, m'asseoir où ça me chante. Bref, rêvasser tranquillement sans que l'on me rappelle à l'ordre. Mais bon, les grands, c'est souvent pressé. Vous avez remarqué ça, vous aussi? Quoique, je suis bête, vous êtes certainement des grands aussi. Et je parie que vous aussi, vous êtes souvent pressés. Souvent, après nounou, je veux marcher. Alors on passe par le centre-ville pour rentrer à la maison. L'endroit que je préfère pour marcher, c'est là où j'ai le droit de ne pas rester près de papa et maman. Je peux courir autant que je veux et aller où je veux. Enfin, tant que je vais dans le même sens que papa et maman quand même, sinon ils me rattrapent vite en me courant après. Ce qui me fait éclater de rire et recommencer exprès parfois aussi. Dans cet endroit, le bruit des voitures est moins présent. Parce que papa dit qu'elles n'ont pas le droit de rouler dans cette rue. D'ailleurs, ça le fait râler quand il y en a une qui s'est quand même faufilée. Et il y a aussi plein de magasins, avec chacun quelque chose qui m'intéresse. Alors je m'arrête pour regarder.
Oh, c'est rigolo ici. Il y a un nounours qui semble me sourire. Oh, ici, regarde maman, ça brille. Oh, la grosse boule avec l'eau autour. Oh, non, il n'y a plus d'eau. Bah, comment ça, il fait trop froid. D'ailleurs, c'est souvent à la grosse boule que ça se gâte et qu'il faut à nouveau donner la main ou remonter dans la poussette. Fini la liberté. Les voitures sont de retour. Bon, il faut quand même bien avouer que parfois, ça m'arrange car mine de rien, c'est fatigant de marcher.
Ouais, retour à la maison après, ma chérie. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Thomas à la technique, à Saïk Chardon pour l'interview et Benoît Bouscaël de l'Onde Porteuse pour les conseils. On vous retrouve le mois prochain, même jour, même horaire. D'ici là, vous pouvez écouter notre émission en podcast sur le site www.radio-b.fr.
Et nous retrouver sur notre page Facebook en tapant simplement « La parentèle enchantée ». À la prochaine.
À la prochaine.
Bisous.